Nos élus sont convaincus qu'il faut jouer la carte de la sobriété et de l'efficacité, que l'énergie la moins chère et la moins polluante est bien celle qu'on ne consomme pas du tout. Donc ils ont décidé d'abord de travailler sur ce sujet avant d'aller installer des panneaux solaires et divers équipements de production d'énergie renouvelable. Et donc toutes ces mesures qui sont vraiment liées à l'usage et donc de la sobriété devraient nous permettre d'atteindre déjà 10% d'économie.
C'est à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, que la mairie a pris à bras-le-corps la question de la sobriété énergétique depuis déjà quelques années. Pour illustrer cet immense chantier, je retrouve Sophie Collet, responsable du service énergie, maintenance et stratégie. Nous avons rendez-vous au gymnase Favier, symbole de cette transition énergétique à tout point de vue.
Sobre, basique. Le podcast pour donner la parole à celles et ceux qui ont mis la sobriété au cœur de leur activité. Épisode 4. Bourg-en-Bresse. La cité sobre.
Alors on se trouve là dans le hall du gymnase Favier, un gymnase qui a été construit dans les années 60. Ce gymnase, il était d'un aspect extérieur pas très avenant. Il ressemblait plus à un hangar qu'à un gymnase. Quand la ville a décidé en 2015 de faire des travaux de rénovation énergétique sur ce bâtiment, l'idée c'était de refaire toute l'enveloppe pour mettre une couverture dessus et qu'il devienne un équipement beaucoup moins énergivore et en profiter pour l'embellir et lui donner un aspect plus agréable à regarder et plus convivial à l'intérieur.
On va voir les salles ?
On y va.
Le dojo.
Allez, on choisit le copain, on se fait par deux et on commence le yaku. Allumé.
Alors, on rentre là, effectivement, dans la salle de judo. Donc là, on a isolé les murs par l'extérieur. Bah, c'était un bâtiment dont les murs n'avaient aucune isolation. Donc, en fait...
Zéro.
Oui.
C'était un entrepôt, quoi.
Oui, pas loin de ça. Voilà, il n'y avait vraiment rien. On était sur une construction légère, une charpente métallique et après des bardages qui n'incluaient pas d'isolation.
Allumé.
Les murs qui ont été isolés par l'extérieur, l'architecte a proposé sur certaines faces de ne pas mettre un bardage simple devant, mais de recréer un mur en pierre, ce qui a permis de créer aussi un aspect plus chaleureux à ce bâtiment. Et puis après, à l'intérieur des salles, on a remplacé les équipements de chauffage et on a fait le choix aussi de ne pas mettre des équipements techniques compliqués, pour la ventilation notamment, et de simplement se baser sur des fenêtres qui vont s'ouvrir automatiquement quand le taux d'humidité ou le taux de CO2 sont un peu trop élevés à l'intérieur de la pièce. Donc elles s'ouvrent et puis quand c'est suffisamment aéré, ça se referme.
Hop, on s'assoit contre le mur.
Ça nous permettait un investissement moindre au moment de la construction et en fonctionnement, et ben on n'a pas des moteurs de VMC qui tournent en continu.
Alors, je vous explique la règle du jeu. On est dans le carré jaune, on va se déplacer que sur les traits du tapis.
Donc là, la salle où on va, c'est la salle principale qui sert surtout à l'accueil des collégiens, des lycéens qui viennent pratiquer des sports collectifs, le hand, le basket.
Allez, on enchaîne. Montez-nous.
Alors cette pièce, elle est chauffée donc par des aérothermes, donc ce sont des appareils qui soufflent de l'air chaud. Et l'ensemble du gymnase en fait est alimenté par le réseau de chauffage urbain. Et le réseau de chauffage urbain, c'est en fait un réseau qui circule sous la terre avec des tuyaux qui apportent de l'eau chaude. Et cette eau chaude, elle est produite dans une chaufferie centrale qui, elle, est alimentée au bois. D'accord. Donc c'est une énergie renouvelable en grande majorité.
Je viens devant le défenseur, je viens poser mes appuis, changer de main. Vite.
Et donc ici, il fait combien ?
Il fait 14 degrés, c'est la température de consigne qu'on a maintenant dans l'ensemble de nos équipements sportifs.
Et c'est nouveau ?
Et c'est nouveau, voilà. On avait lancé des actions déjà depuis 2015 même sur la ville, où on avait essayé de travailler sur les consignes dans les gymnases, de se dire pour faire du sport, on n'a pas besoin d'avoir 18 degrés. Donc depuis cette période-là, on chauffait l'ensemble de nos équipements sportifs à 16.
La réflexion, elle ne date pas de cet hiver, en fait.
Non, voilà. Chez nous, on avait enclenché ça depuis quelques années. Mais là, dans le contexte cette année de la sobriété, on s'est réinterrogé. Et on a décidé de chauffer toutes les grandes salles, là où on pratique des sports collectifs, où on bouge, à 14 degrés. Dans les écoles, on a aussi distribué des petits flyers à destination des parents qui expliquaient que nos températures dans les écoles sont de 19, qu'elles étaient de 14 dans les gymnases, qu'il fallait donc habiller les enfants en conséquence. La demande qui avait été faite jusque-là, c'était que les usagers aient bien chaud partout où ils allaient, et notamment les enfants dans les écoles. Donc c'était plutôt l'usage de chauffer les écoles à 23 pour être sûr qu'on n'ait pas de plaintes. Et donc il y avait, comme à beaucoup d'endroits, des marges de manœuvre.
Racontez-moi ce que vous êtes venue faire ce soir.
Je suis venue faire un cours de gym volontaire. Donc là, c'est du cardio danse.
Vous aimez bien ?
Ah oui, ça défoule en sortant du travail, on aime bien.
Depuis cet hiver, la température, elle a baissé dans le gymnase. Avant, c'était à 16 degrés. Maintenant, c'est passé à 14. Est-ce que vous avez senti, vous, la différence ?
Oui, ben, dans des salles qui sont un peu plus grandes, là, dans la salle du lundi soir, on est assez nombreux. Donc, en fait, la chaleur humaine et puis l'équipe d'avant, le groupe d'avant chauffe un peu la salle. Sur un autre gymnase, Charles Perrault, on sent bien. Il est grand, il est haut de plafond, donc on sent bien la différence. Ouais.
Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette nouvelle règle du chauffage à 14 ?
Bah, en même temps, quand on fait du sport, il y a des gens qui font du sport à l'extérieur, donc en soi, c'est pas, je trouve pas que ça soit problématique. C'est juste qu'il faut bien se rhabiller. Si on enchaîne deux cours, on se rhabille entre temps. Je garde mon pull et puis une fois que j'ai chaud, je l'enlève et puis voilà. Enfin, c'est logique, on doit tous faire des efforts, donc on en fait chez nous, on en fait aussi. Je trouve ça normal, quoi. La planète, elle est aussi pour nos enfants, donc faut qu'on fasse attention.
Et vous en avez des enfants ?
Deux petits garçons. Et puis eux, ils ont bien compris qu'il fallait bien éteindre la lumière, qu'il fallait pas avoir de chauffage forcément dans la salle de bain, voilà.
Comment tout ça a commencé ?
Alors tout ça a commencé en 2012 avec les services d'entretien du patrimoine qui ont commencé à travailler sur une école en faisant des travaux pendant l'été. Le premier été, ils ont changé les fenêtres. L'été d'après, isolé le bâtiment sur les murs. Et puis l'été d'encore après, ils ont fait les plafonds et les vitres sanitaires et changé la chaudière. Et puis, on s'est penché sur le bilan et on s'est aperçu qu'avec ça, on faisait 60% d'économies sur les consommations de chauffage. Donc on s'est dit, bah, c'est quand même intéressant et c'est vraiment efficace de faire des travaux de rénovation énergétique. Donc ça vaudrait le coup qu'on en fasse sur plus de bâtiments.
Quels sont vos objectifs ? Quelle est votre vision à long terme ?
On s'inscrit dans une réglementation, un décret qu'on nomme dans notre jargon le décret tertiaire, qui nous oblige à avoir fait 40% d'économies sur tous nos bâtiments d'ici 2030. Donc la ville de Bourg-en-Bresse a décidé de se focaliser d'abord sur les équipements scolaires. C'est pour ça qu'on a attaqué par les écoles. Maintenant, il reste tous les autres bâtiments.
Et vous avez la trésorerie pour ?
On fait partie des collectivités qui se sont engagées assez rapidement dans cette démarche-là et qui avions identifié les marges de manœuvre. On est aujourd'hui suivi par pas mal de collectivités, mais effectivement, on a pour nous d'avoir engagé cette démarche depuis quelques années déjà.
Vous avez été une source d'inspiration pour d'autres villes ?
Oui, il nous arrive de témoigner aujourd'hui dans divers webinaires ou conférences pour expliquer ce qu'on a pu faire et donner l'idée à d'autres. C'est vrai que moi, ça donne beaucoup de sens à mon travail. J'habite Bourg-en-Bresse et je fréquente les écoles avec mes enfants, les gymnases. Et je trouve très satisfaisant de se dire que mon travail contribue à rendre tous ces équipements à la fois plus fonctionnels, plus agréables et avec un plus faible impact sur l'environnement.
Comment vous rêvez la ville de demain ?
Alors la ville de demain devra effectivement avoir des bâtiments peu consommateurs, mais aussi des bâtiments qui auront été pensés pour pouvoir rester confortables l'été, pour s'adapter au changement climatique. On travaille aussi beaucoup sur la gestion de ce qu'on appelle les îlots de chaleur, pour faire en sorte qu'autour des bâtiments, on ait le plus possible d'espaces verts, débitumisés, puisqu'on sait que toutes les surfaces en enrobées gardent la chaleur et la restituent tout au long de la journée. Donc on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas le cas pour rendre la ville de demain confortable aussi l'été par les fortes chaleurs.
Sobre, basique. Un podcast proposé par EDF. Écrit par Alice Milo, réalisé par Juliette Medevielle et produit par Studio Fact Audio. À suivre, épisode 5. Les hôpitaux de la Ville Rose, Pasteau Vert.